d'autres de vos livres, il y a des personnages aussi qui changent de vie, c'est une autre détection suite à des rencontres fortuites. Or, vous-même, à 28 ans, je crois, vous venez du monde de l'entreprise, vous avez complètement changé de direction à 28 ans, vous avez été vers le développement personnel, la psychologie, la philosophie. Alors, je ne pense pas par la rencontre d'une personne extérieure, comme souvent dans vos livres, mais vous avez quand même vécu un moment, une dépression, un moment difficile. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est ce changement de votre propre vie qui vous a inspiré pour vos livres, pour vos romans ?
Bon, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci d'avoir bravé les intempéries pour venir, c'était pas évident ce soir. Bonsoir Michel. Alors, est-ce que je puise dans mon histoire personnelle ? Oui, forcément, forcément. Vous savez, moi, j'ai pris la plume à 40 ans, donc j'ai tout un vécu avant. J'ai vécu un peu dans le monde de l'entreprise pendant 5 ans, ensuite comme consultant pendant 15 ans. Donc, j'ai évidemment, comme chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, vécu beaucoup de choses et je puise abondamment dans mon vécu pour chercher des idées. Pour ce qui est du changement et de mes personnages, je me méfie de mon vécu parce que mon cas n'est pas forcément généralisable. Nous sommes tous différents, nous avons tous des personnalités différentes, même s'il peut y avoir des grandes tendances, donc beaucoup de points communs. Mais c'est naturellement, ce serait une erreur de penser que ce qui nous a permis à soi d'évoluer peut convenir à tout le monde.
Mais au moment où vous êtes mis à écrire, vous avez choisi la voie romanesque. Or, un certain nombre, il existe beaucoup dans le développement personnel, des essais, des récits, des documents. Vous avez opté directement pour le roman. Est-ce que ça veut dire que vous étiez vous-même un romancier frustré, ou en tout cas, vous aviez envie de raconter des histoires au-delà du fait de parler de développement personnel ?
Alors, non, j'avais pas spécialement envie d'écrire des romans, de raconter des histoires. Moi, ce qui me motivait et qui me motive toujours, c'est tout ce qui peut permettre aux êtres humains, je dirais, d'avancer dans leur vie vers une vie épanouie et heureuse. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui m'a animé pour moi à un certain âge quand j'étais très malheureux, un peu ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Quoi. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui parce que je pense qu'on a tous à gagner à ce que l'humanité dans son ensemble et chacun pris individuellement évolue vers plus d'épanouissement, plus de bonheur. Je pense que c'est aussi une façon d'accélérer l'évolution de l'humanité vers le haut. Je pense qu'on a tous intérêt, on a tous des bénéfices à ce que tout le monde aille mieux. Mais le bonheur, ce n'est pas une démarche égoïste. Je ne crois pas à la démarche individuelle vers le bonheur où on travaille uniquement sur soi et puis à un moment donné, on se dit ça y est, moi je suis heureux. Tout le monde est malheureux, tant pis pour eux, mais moi je suis heureux. En fait, ça ne marche pas comme ça pour plein de raisons et peut-être la plus essentielle, que l'être humain est un être de relation. Je suis intimement convaincu que nous sommes tous reliés. Alors, par quoi, c'est difficile de le dire, même si des chercheurs se penchent sur la question. Certains, comme Rupert Sheldrake en Angleterre, à l'université de Cambridge, parlent de liens akashiques. Enfin bref, peu importe, ce qui est certain, c'est que nous sommes reliés. Il y a quelque chose qui nous unit, qui nous rassemble, et qui fait qu'on ne peut pas véritablement exister indépendamment des autres. Il y avait cette terrible expérience, d'ailleurs, qui avait été menée en Roumanie il y a quelques siècles par un empereur un peu fou qui avait demandé dans un orphelinat qu'on isole les enfants, même qu'on les isole, il y avait, qu'on les prive de relations humaines. C'est-à-dire que les nourrices qui s'en occupaient devaient subvenir à tous leurs besoins physiologiques, donc bien sûr on les changeait, ils étaient propres, on leur donnait à manger, on leur donnait à boire, mais elles n'avaient pas le droit de regarder dans les yeux. Elle n'avait pas le droit de les prendre dans leurs bras, de leur faire des câlins, donc aucune relation affective. Et en fait, ils sont tous morts, ce qui est horrible, naturellement, et qui tend à montrer qu'en effet, l'être humain n'est pas qu'un être fait de matière, qu'il ne suffit pas finalement de se nourrir pour vivre. Nous sommes des êtres de lien.
Justement, quand vous écrivez un roman, vous partez d'une idée comme celle-là, il y a beaucoup de monde l'a dit, qui raconte des personnages qui changent de voie, qui trouvent que leur vie n'a plus de sens, ou en tout cas que leur tête qu'ils l'amènent ne les satisfait plus, donc ils changent de voie. Est-ce que c'est des idées comme ça qui sont au départ, par exemple la peur de l'échec, l'envie d'aller vers d'autres directions, qui vous stimulent et qui vous amènent à raconter des histoires, ou bien vous partez plus de personnages ?
Non, je ne parle pas des personnages. En fait, ce serait beaucoup plus simple. Parce que moi, je parle en effet des concepts, des idées que j'ai envie de transmettre, parce qu'à un moment donné, je réalise que voilà, c'est ce qui m'occupe l'esprit, et quand j'ai une idée, que j'y pense le jour, et parfois même si en rêvant la nuit, bah, je sais que bah, ça signifie qu'il est temps de prendre la plume pour communiquer dessus. Quoi. Et donc, c'est dans un deuxième temps, en fait, que je dois chercher l'histoire qui va porter ces idées, qui va porter les messages que j'ai envie de transmettre. Mais ça, c'est un gros boulot pour moi, parce que c'est pas évident, en fait, de trouver, oui, des personnages, des contextes, des situations, des scènes qui vont servir les messages, qui vont les porter, et puis qui vont reconstituer, au final, une histoire crédible, qui tient la route.
Et dans plusieurs de vos livres, c'est suite à une rencontre que votre personnage évolue, ça veut dire que l'homme ne peut pas évoluer seul, que c'est vraiment par l'apport extérieur, par d'autres personnes qui peut échanger.
C'est une vraie question, Michel. Est-ce que nous pouvons évoluer seuls? En tout cas, il peut y avoir une initiative seule. C'est-à-dire, on peut se dire à un moment donné, moi, ce qui a été mon cas. D'ailleurs, voilà, ma vie n'est pas satisfaisante. Et donc, je n'ai pas envie de continuer comme ça. Donc, j'ai envie de faire un travail sur moi. Maintenant, à un moment donné, je pense qu'on ne peut pas se passer, de la relation à l'autre. Alors, ça peut être évidemment, ce qui me vient à l'esprit, c'est une relation thérapeutique avec un professionnel. Ce qui est peut-être l'idéal, évidemment, parce que c'est quelqu'un dans ses métiers qui sera le plus à même de nous conseiller sur un chemin. Et ça peut être aussi simplement avec des amis, en fait, de parler avec des amis, parfois avec sa famille, même si parfois se méfier aussi de la famille, on en parlera peut-être plus tard. Quoi. En tout cas, bien sûr, notre entourage est là aussi pour nous aider, et notamment, et là on va peut-être rejoindre le premier thème de ce livre, notamment en nous présentant un miroir de notre personnalité, puisque en fait, je peux sans vous faire un cours de psycho, on peut essayer de prendre un peu le recul sur la personnalité. Qu'est-ce que la personnalité? Puisque c'est le thème principal de cet ouvrage. La personnalité, en fait, vous savez qu'il y a longtemps un débat dans le monde des psychologues entre l'inné et l'acquis, hein, les innéistes et les acquiristes, ceux qui pensaient que voilà, on venait avec un bagage, et d'autres qui pensaient que tout était du ressort de l'acquis, c'est en fonction de notre vécu, du discours des parents. Bon, aujourd'hui, le débat est à peu près tranché, en tout cas en ce qui concerne la personnalité. C'est-à-dire, même s'il y a beaucoup d'acquis, on peut développer beaucoup de choses en fonction de ce que nous répètent les parents, les gens qui nous élèvent, donc souvent nos parents. Vous voyez, si on nous répète des choses, surtout nous concernant, ou même concernant le monde, vous voyez, si vos parents, vous disiez tout le temps quand vous étiez petit, ah, il était en l'air celui-là, par exemple. Ben, peut-être qu'au bout d'un moment, vous vous êtes mis à y croire, et pour vous, c'est devenu votre réalité, que je suis quelqu'un de tête en l'air. Puis vous avez sans doute des parents aussi qui avaient une vision du monde, forcément, c'était la leur. Et puis ils l'ont peut-être répété, vous voyez, peut-être sous forme de proverbe ou autre, ah, la vie est comme ça, la vie est un combat, ou d'autres vous ont peut-être dit, non, la vie est un jeu, etc. Et donc finalement, vous avez pu acheter cette vision du monde, qui est à ce moment-là devenue la vôtre, sans vous en rendre compte d'ailleurs. Donc, tout ça, c'est de l'acquis. Puis dans l'acquis, on peut mettre aussi le résultat des expériences que l'on vit, puisque finalement, on est tous amenés à vivre un certain nombre d'expériences, et ce, naturellement, dès le plus jeune âge, avec un résultat. Un résultat, parfois, qui va dans le sens de ce que l'on espère, puis d'autres fois pas. Et puis, ma foi, on en tire des conclusions. Il y a un mécanisme qui est propre au cerveau humain, qui est la généralisation. Et donc, on tend à généraliser le résultat de nos expériences. Alors, il y a une vraie fonction, hein, c'est pas hasard, hein, si on est amené à généraliser, mais il y a une fonction protectrice, notamment, ça nous permet de diriger un certain nombre de règles sur la vie. Un exemple classique, c'est la porte du four. Et la porte du four chaude, maintenant, c'est plus vrai parce qu'elles sont isolées, mais tant fois elles étaient chaudes, donc le bébé met la main sur la porte du four, il se brûle, et après il généralise à toutes les portes du four. Il apprend qu'il ne faut pas mettre la main sur les portes du four. En fait, il a juste vécu une expérience désagréable. Mais du coup, c'est protecteur. Donc nous, on est tous amenés à tirer des conclusions, et assez souvent, trop hâtives, en tout cas, s'il s'agit d'échecs, de ce que l'on vit. Et puis c'est comme ça, quand il y a des gens qui vont vous dire « Ah ben moi, je suis pas matheux ». En fait, très souvent, il y a quelqu'un qui dit « Je suis pas matheux », eh bien, il y a eu quelques mauvaises notes, peut-être, une réprimande de la part d'un parent, d'un professeur, suite à une ou deux mauvaises notes en maths, et puis l'enfant, on a tiré la conclusion qu'il n'était pas matheux, qu'il avait au niveau identitaire, vous voyez. C'est pas moi, je ne suis pas bon matheux, je ne suis pas matheux. Et donc, et après, ça s'inscrit en lui, etc. C'est comme ça qu'on se crée des croyances. Donc ça, c'est pour l'acquis. L'inné, apparemment, c'est ce qui concerne la personnalité, la plupart des psys sont d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'on viendrait au monde avec une sorte d'orientation de l'énergie à la naissance qui permettrait à notre personnalité de se développer autour d'un pôle. Il semblerait que ce pôle soit une sorte de problématique. C'est-à-dire en fait, on aurait tous, je dis bien on aurait, parce que tu sais, on est quand même dans les sciences humaines, hein, c'est pas évident de nous prouver quoi que ce soit dans ce domaine, mais on aurait une sorte de grande frayeur, de grand problème cœur de notre personnalité et autour duquel, de laquelle la personnalité s'est développée. Et elle se développe en nous fournissant finalement une forme de paire de lunettes à verre déformant qui nous font voir une réalité biaisée, même si nous sommes intimement convaincus que ce que l'on voit à travers nos lunettes est la réalité. Et, sauf qu'elle est biaisée. Alors vous me direz, mais attends, pourquoi est-ce que l'être humain, pourquoi est-ce que la psyché humaine fonctionne ainsi ? Parce que c'est ici pour nous éloigner de la réalité. En fait, il y a une fonction qui est encore une protectrice, c'est-à-dire que quand on est un petit enfant, qu'on est projeté comme ça dans le monde, on est finalement face à ce qu'on pourrait appeler une espèce de grand chaos, et c'est le chaos du monde, il faut bien à un moment donné s'adapter à ce chaos, trouver sa place, être capable d'avoir des relations avec les autres. Et donc finalement, notre personnalité nous fournit une grille de décodage, finalement. Vous voyez, on comprend le monde à travers notre personnalité, à travers toutes ces croyances fournies par la personnalité, et même si elles ne sont pas la réalité, eh bien, ces croyances nous permettent de nous adapter, donc de trouver une forme d'équilibre. Et c'est pour ça que finalement, on arrive à être des êtres humains qui finalement parviennent à se dépatouiller dans la vie, quoi, parce qu'on trouve une forme d'équilibre qui est fruit de notre vision du monde, hein, issue de ces lunettes à verre déformant. Sauf que, au bout d'un moment, on peut ressentir qu'il y a une certaine souffrance, et cette souffrance vient de cette paire de lunettes. Et donc un travail dans la vie va non pas être de retirer complètement ses lunettes, on ne peut pas se défaire de sa personnalité. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on l'a pour la vie, quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut affiner les verres. On peut affiner les verres jusqu'à ce qu'ils deviennent finalement très fins, qu'on soit en permanence très très proche de la réalité. Je vais peut-être vous donner un exemple concret, parce que sinon c'est très, très, très abstrait. Je vous parle à moi. Au cœur de ma propre personnalité, il y a une problématique de peur. D'accord ? C'est-à-dire que la peur, c'est vraiment c'est le noyau. Ou le faux noyau, ce que les Américains appellent le false core. Donc c'est quelque chose, une espèce de grande illusion en moi, qui a paru très très jeune, mais ça, je me rends bien compte qu'aussi loin que remonte ma mémoire, il y avait ça en moi, il y a la peur. Alors peur de quoi ? Ben, peur d'à peu près tout, en fait. Je dirais.
Sauf de parler devant le public.
Pardon ?
Sauf de parler devant le public.
Aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas. Croyez-moi, j'ai déjà raconté ici même à lui, je crois que lorsque j'avais je sais pas, une vingtaine d'années, le simple fait de, et ça a donné lieu à une scène dans l'un des livres, le fait, et c'est véridique, rentrer dans une boulangerie quand j'avais 20 ou 25 ans, juste pour dire bonjour mademoiselle, je voudrais une baguette de pain pas trop cuite s'il vous plaît. Rien que cette phrase, Michel, me demandait une préparation mentale. Non mais riez pas, hein, c'est vrai. C'est-à-dire, je devais me répéter la phrase avant d'entrer dans la boulangerie. Parce que si je ne le faisais pas, les mots restaient coincés dans ma gorge. Donc il y avait une espèce de son guttural qui sortait. Et la jeune femme, en face, quand j'avais, on s'est des sourcils, elle me disait quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Et là, c'était pire que tout, je devenais tout rouge, je me mettais à transpirer. Mais vraiment, moi, je ne plaisante pas. Et j'étais adulte. Hein. Et mon bac plus 5 me mettait en rire, hein, je vous assure. Quoi. Donc voilà, moi, je ne sais plus pourquoi. Oui, vous ne parlez pas en public. Donc bref, je vous disais. Les peurs, donc moi quand j'étais gamin jusqu'à un âge assez avancé, j'avais peur d'à peu près tout. Alors ma grande peur, c'était quand même les gens. Pas de mal, ils sont sur 400 ce soir. Et ça, c'est ma grande peur dans l'existence, les gens. Okay. Mais j'avais plein d'autres peurs, ça ne s'arrêtait pas là, ça ne serait pas drôle. J'avais peur de quoi ? J'avais peur des microbes aussi, j'avais vraiment peur. Microbes, les bactéries, j'avais peur des missiles soviétiques quand j'étais jeune, parce qu'il y avait 300 ou 400 qui étaient pointés vers l'Europe. Grande peur. J'avais peur de. Mais vraiment de tout. J'avais peur de sortir de chez moi, j'avais peur de tomber de vélo. Donc vraiment, j'avais peur de l'école. Quand on m'a mis à l'école, en maternelle, j'ai eu tellement peur que j'ai eu, paraît-il, je me souviens pas un peu, mais j'ai crié à tel point qu'on a dû me retirer. Moi, j'ai pas fait l'école maternelle. Tellement ça me faisait peur, vous voyez. Donc bref, peur au cœur de ma vie. Et c'est pas grave, j'ai fait avec. Quand j'ai fait avec, je me suis adapté. Comme je vous disais, notre personnalité en fait, nous permet de nous adapter au monde. Moi, je suis arrivé à la conclusion assez précocement que le monde était dangereux, donc j'ai pris mes dispositions. Je me suis mis à l'abri donc, de tout ce qui me faisait peur. J'ai vraiment bien mis à l'abri, d'accord. Donc, notamment, j'avais pas d'amis, je fréquentais personne, même à l'école, j'étais dans mon coin. Et puis, j'avais la tête qui tourne, ça va aller. Je suis un petit malaise en ce moment, mais ça va aller. Bon, si je tombe dans les pommes, j'ai juste redresser mes pieds pour faire monter le sang au cerveau et tout ira bien, je vais partir. Donc j'ai envie de faire des goûts, de parler de quoi ?
Des peurs.
Qui sont ces gens d'abord ? Donc, mes peurs quand j'étais gamin. Donc je me mettais à l'abri de l'objet de mes peurs. D'accord, donc je me planquais des autres. J'ai peur des araignées, je m'arrangeais pour jamais être en contact avec une araignée. Et puis je me suis débrouillé comme ça, à trouver un certain équilibre, vous voyez, que j'ai survécu, jusqu'à ce que je réalise, et au moment où j'ai eu cette crise professionnelle, parce que j'étais très malheureux dans mon ancien poste, excusez-moi, ouais, je prends un peu d'eau. C'est juste que j'ai une tension un peu basse en ce moment, mais c'est rien de grave. Donc oui, un jour j'ai réalisé que oui, je pouvais continuer comme ça, mais j'allais avoir une petite vie. Parce que je me mettais à l'abri de tout, je me planquais, je voyais pas grand monde, et finalement, voilà, j'étais attiré par, je sais pas, j'aurais faire du parachute, mais ça me faisait peur. Et en fait, j'avais peur de tout ce qui m'attirait, et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir vivre comme ça, je vais avoir une toute petite vie. Donc là, je me suis pris en main, enfin, je vous ai peut-être déjà raconté l'histoire, je vais vous faire la version courte. J'ai décidé de travailler sur moi, et notamment en me formant à la psychologie, en lisant des tas de bouquins, ensuite plus tard en allant voir un psy. Mais pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, on a tous une personnalité qui ne répond pas à la même problématique. Donc moi, c'est la peur. Vous pouvez partager ça entre vous. Surtout si vous êtes mes lecteurs, j'imagine que vous avez quelques-uns dans cette problématique. Vous pouvez aussi avoir une problématique de colère, vous voyez. Une problématique de honte, une problématique d'image, par exemple. Vous êtes particulièrement sensible au regard de l'autre. Et en fait, c'est pas grave. Hein, ou plutôt, comme disait Paul Watzlawick, hein, l'école de Palo Alto, c'est désespéré, mais c'est pas grave, quoi. On peut vivre avec, et en même temps, vous avez vu que c'est source de souffrance. Je vous ai parlé des souffrances qui étaient les miennes quand j'étais en proie aux peurs, aux prises et mes peurs. Mais c'est vrai aussi pour quelqu'un qui a une problématique de colère. Vous savez, si vous avez besoin, par exemple, de tout contrôler dans votre vie, ben, c'est impossible de tout contrôler. Donc, dès que quelque chose vous donne le sentiment de vous échapper, ça vous met en colère. Ou si vous voulez vous contrôler vous-même, oui, pour être une meilleure personne, si vous êtes assez perfectionniste, si vous aimeriez, c'est un idéaliste, vous aimeriez que tout soit parfait autour de vous et dans votre vie, ben, vous mettez beaucoup, beaucoup de pression, et puis au final, ben, vous êtes forcément insatisfait parce que c'est voué à l'échec, d'accord, etc. Ben, si vous êtes dans une problématique d'image et que vous pensez que là, c'est très important que les autres vous reconnaissent, que vous admirent, vous aiment, etc., ben, là aussi, c'est voué à l'échec parce que personne ne vous aimera. Il y aura toujours quelqu'un pour ne pas poser un regard positif sur vous. Vous voyez, donc toutes ces quêtes qui sont dictées par notre personnalité, en fait, sont vouées à une forme d'échec et donc sont source de souffrance. Mais la solution n'est pas de se libérer de sa personnalité, parce qu'en fait, c'est assez impossible, c'est tout à fait impossible. Je vous disais tout à l'heure, on peut affiner le verre. Enfin, affiner le verre, par exemple, pour moi qui suis dans la peur, ça a été de faire la part des choses entre les dangers que je croyais voir dans le monde et la réalité. Et puis j'ai vu qu'il y avait un gap quand même assez important. J'ai compris que la plupart des risques que je voyais dans toutes les situations, en fait, étaient une création de mon esprit, ne correspondaient pas à des dangers réels. Là, il y a des dangers, évidemment, dans le monde. Mais moi, je voyais surtout ça, essentiellement ça, parce que ça me pourrissait un peu la vie, vous voyez. Et donc, finalement, chacun de nous a des filtres dont il peut se libérer pour avoir une vie plus harmonieuse. Et en fait, c'est un peu comme si notre personnalité s'incarnait par une pièce à double face. Il y a deux faces à la pièce. Donc pour moi, l'une, c'était la peur, et l'autre, c'est la confiance. Et donc, le travail, pour moi, mon chemin, a été dans ma vie de passer de la peur à la confiance. Alors, ça peut sembler trivial, on se dit, oui, ben, c'est l'opposé. Hein. La peur, la confiance, oui, mais en même temps, c'est pas anodin. C'est-à-dire, c'est un chemin qui demande un effort quasi surhumain pour la personne qui a cette problématique, alors que ça semble totalement hors sujet pour ceux qui ne sont pas dans cette problématique. Ben, si vous êtes dans une problématique de colère, eh bien, votre chemin va être de passer peut-être de la colère à la sérénité. Ce qui, moi, me semblerait hors sujet, parce que ce n'est pas mon problème. Moi, serein, je suis serein, j'ai peur. Mais par contre, c'est un vrai travail pour quelqu'un qui est dans la colère, hein, qui l'appelle à lâcher prise et ne pas tout contrôler, ne pas se contrôler s'il porte son contrôle sur lui-même. Vous voyez. Donc, en fait, chacun a un chemin qui consiste à visiter l'autre face de la même pièce. Alors, si vous êtes dans la honte, il faudra travailler l'appréciation de soi et découvrir que vous êtes une belle personne, que vous avez des qualités, et que les gens ne vous jugent pas sévèrement. Si vous êtes dans l'image, ben aussi lâcher prise et accepter que ben, peut-être ben, certaines personnes n'ont pas ce regard positif sur vous, ou même découvrir que, quelle que soit votre image, on vous aimera quand même aussi, vous voyez, malgré vos défauts, etc. Du coup, j'ai oublié votre question,
c'est important. L'importance à la réponse. quand il y a 10 ans, vous avez publié justement votre premier livre qui voulait être heureux, est-ce que vous avez eu une autre peur, la peur de l'échec? Ou bien c'est une peur qui ne vous a pas du tout habité à ce moment-là? Alors,
pas du tout, parce que je n'avais pas d'attente par rapport à la réussite. En fait, je ne connaissais absolument rien au monde de l'édition. Je pense d'ailleurs si j'avais plus d'informations, j'aurais eu sans doute un bon paquet de peurs que j'aurais mais moi, je connaissais rien, donc moi, naïvement, j'ai écrit un livre en étant parfaitement aligné et sincère sur ma volonté de transmettre des choses qui me semblent utiles dans la vie. Donc, comme j'écrivais pour les gens, je faisais normal que les gens le lisent. C'était très naïf, en effet. Mais j'avais pas de peur, parce que j'avais pas d'attente par rapport à ça. Oui, j'écrivais pour les gens, mais pour moi, c'était naturel que les gens le lisent. Alors, si en effet, j'avais plus d'informations, par exemple, si on m'avait dit que la même année, il y aurait eu de mémoire 68 000 nouveaux titres qui seraient sortis dans les librairies, voilà, je me serais peut-être dit, oh là là, je vais être 1 sur 68 000, je vais avoir du mal à atteindre mon objectif qui est de toucher les gens. Mais je n'avais pas ça à l'esprit.
Okay. Je vous ai posé la question parce que la peur de l'échec est quelque chose qui bloque aussi. L'idée qu'on ne réussisse pas du premier coup peut-être empêche l'individu de risquer quelque chose. Il y a une espèce de condamnation de l'échec chez nous qui peut être un frein.
Vous avez parfaitement raison d'en parler, Michel, parce que c'est très présent en France. Il y a une dimension culturelle dans la relation à l'échec. Moi, je me suis beaucoup formé aux États-Unis parce qu'il y a 20 ans, dans le monde de la psychologie, c'est surtout là-bas que ça se passait. Vous voyez, en tout cas, ce qui est le domaine qui m'intéressait, la psychologie cognitive. Et aux États-Unis, la relation à l'échec est très différente. Et là, on trouve ça normal que les gens échouent quelque chose. Et vous voyez, par exemple, si vous voulez monter, je sais pas, un projet, une entreprise, et que vous échouez, ce sera très bien vu sur votre CV. Parce qu'on se dira, c'est quelqu'un qui a eu le courage de suivre son idée, de la mener à terme. Ok, ça n'a pas marché, mais il a appris l'état de choses par rapport à ça. Donc on valorise l'échec. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François. Je suis gâté. Oui, j'ai une peur qui vient immédiatement à l'esprit, parce que les Smarties sont bourrés de nanoparticules. Alors, je vais plutôt me rabattre sur les chips. Il y a une histoire célèbre, une histoire vraie de ce PDG américain, je pense que c'est le PDG d'IBM, qui recevait un jour, une histoire vraie, un commercial qui venait d'échouer une grande négociation. Big contrat. Et le commercial avait demandé rendez-vous, il rencontre le PDG et il promet sa démission. Il a entendu que c'est bien qu'il a demandé de partir, donc sachez que je vous la donne de mon cœur, ça méritait. Et le PDG le regarde et me dit: fichez-moi, je viens d'investir 2 millions de dollars, c'était le montant du contrat perdu. Je viens d'investir 2 millions de dollars dans votre formation et vous voulez partir. C'est une histoire vraie, mais qui illustre parfaitement la relation à l'échec dans ce pays. En France, quand on a un échec, on a honte, on le cache. Moi, quand je me suis fait licencier à l'âge de 26 ans, 27 ans, je l'ai caché à tout le monde, je l'ai caché à ma famille, je l'ai caché à mes amis. Je disais que j'étais en création d'entreprise, c'était un peu plus valorisant. Mais bon, comme ça a duré 2 ans, au bout de 2 ans, tout le monde se demandait pourquoi j'avais toujours pas de clients. Mais j'avais honte, c'est ça la vérité. Parce que j'étais soucieux de mon image, même si c'est pas la problématique au cas de ma personnalité. Et c'est dommage parce que l'échec, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'échec fait partie de la vie. Et l'échec fait notamment partie de tout processus d'apprentissage. Je crois qu'on ne peut pas apprendre sans se tromper. Oui, l'apprentissage, c'est comme beaucoup des essais-erreurs. Donc, c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave d'échouer. Et d'ailleurs, je pense même, au-delà de c'est pas grave, je pense même que c'est une chance extraordinaire dans la vie. Oui, je pense que j'aurais pas eu la vie assez satisfaisante que j'ai depuis une vingtaine d'années. Que j'ai quitté mon ancien métier dans le domaine de l'économie et des finances à 27 ans, je n'aurais pas eu si je n'avais pas touché le fond du gouffre. Parce qu'en fait, moi, quand je me suis retrouvé au chômage, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Pourquoi est-ce que je quittais le monde économique qui ne m'intéressait plus? Je ne voulais plus bosser dans ce domaine. Sauf que tous mes diplômes y étaient rattachés. Et j'avais une vraie problématique, je ne savais pas quoi faire et je ne savais même pas ce que j'avais envie de faire. Oui, c'était quand même assez désespéré. Et en fait, ce qui s'est passé au bout de 2 ans, c'est que j'ai tout perdu. J'ai vraiment vécu l'échec. J'avais perdu mon poste 2 ans plus tôt, mais j'avais perdu mon sentiment d'amour propre, vous voyez, parce que le moment où on savait que j'étais au chômage, et puis à l'époque, c'était moins banal que maintenant, quelque part. Donc, Et puis j'avais perdu quoi d'autre, enfin, comme j'arrivais avec une dépression, j'avais perdu des kilos, j'en ai jamais eu beaucoup, mais encore moins. Donc j'étais pas beau à voir, donc j'avais même perdu les rares qualités physiques que je pouvais avoir. Quoi. Donc j'avais vraiment tout perdu, si vous voulez. Sauf que ce qui s'est passé, et c'est assez étonnant d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vraiment plus rien, et à ce moment-là, eh bien, j'ai senti quelque chose de totalement nouveau pour moi, qui était un sentiment de liberté. Et c'était particulièrement nouveau pour moi dans le contenu de ma personnalité, parce que quand on est dans la peur, on n'est particulièrement pas libre. Alors, il faut me dire, on n'est pas non plus quand on est soucieux du regard de l'autre, hein, dans cette problématique-là. Mais en tout cas, quand on est dans la peur, on n'est pas libre parce qu'on prend nos décisions en fonction de nos peurs, en fonction des dangers imaginaires. Pourquoi je me suis orienté vers la finance quand j'avais 17 ans et que, comme tout petit Français, je choisissais son orientation? Parce que j'avais peur des gens, et je pensais que je serais planqué derrière un bureau avec des ordinateurs et des listings, vous voyez. C'est pour ça, en fait. Je ne le savais pas, c'était même pas un choix conscient. Je m'en suis rendu compte après, après avoir échoué. Je ne pouvais pas réussir dans ce domaine, il n'était pas fait pour moi, j'étais pas fait pour lui. Mais j'étais allé dans ce domaine parce que mes peurs m'avaient poussé là-bas. Donc je n'étais pas libre. Je n'étais pas libre, sauf que là, une fois au fond du gouffre, mais je me suis senti libre. Pourquoi? Parce que je n'avais plus rien à perdre. Et ça, c'est le grand bénéfice de l'échec. Quand on n'a plus rien à perdre, on est parfaitement libre. C'est-à-dire, quels que soient mes choix, je ne pouvais même plus décevoir papa et maman, vous voyez. Mais oui, c'est trop tard. Et du coup, j'ai senti des envies émerger. Vous voyez, par exemple, j'ai senti que j'avais envie de devenir formateur dans ce nouveau domaine auquel je me formais depuis quelques années, qui était la psychologie, la communication, etc. Mais je ne me serais jamais autorisé ça 5 ans plus tôt, parce que mon père était un scientifique renommé, un chercheur, qui allait à la moindre recherche à l'université, enfin... Le fiston formateur, c'était, vous voyez, c'était un échec, quoi. C'était inacceptable, mais c'était inaudible dans la famille. Voilà, dans la situation où j'étais, je n'avais rien à perdre, et du coup, je me mettais à rentrer en contact avec mes envies. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est essentiel dans la vie d'entrer en contact avec ses envies, avec notre cœur, d'écouter notre cœur. Mais ce n'est pas évident d'écouter notre cœur, parce qu'on est tous en relation, parce qu'on est influencé par les autres, on est influencé par nos parents, par nos entourages, par le regard de l'autre, même si on n'est pas dans une problématique tournée autour de l'image, vous voyez. On est influencé par les valeurs ambiantes, on est influencé par plein de choses, donc c'est assez difficile d'écouter son cœur. Et puis en plus, sur le marché, à l'époque actuelle, notre attention est accaparée par les médias, les réseaux sociaux, tous les jeux vidéo, la télé, tout ce que vous voulez, tous ces objets qui attirent notre attention à l'extérieur de nous-mêmes. En fait, à notre époque, c'est encore plus difficile de développer une intériorité, n'est-ce pas? Donc, écouter son cœur, c'est pas facile. Ben, l'échec permet ça. Vous voyez, donc, il y a vraiment de grands bénéfices à l'échec.
Et alors, vous vous êtes libéré aussi des conditionnements. Vous parlez aussi dans différents polis, dans vos personnages, ils doivent se libérer de tout ce qui les a conditionnés pour se retrouver soi-même. En fait, tous vos personnages, quand ils changent de direction, c'est parce qu'ils se reconnectent à eux-mêmes. Donc, c'est un peu le passage obligé, peut-être, pour sinon pour vers le bonheur, en tout cas pour une espèce d'accomplissement personnel.
Oui, je pense qu'il est difficile d'être heureux dans la vie, même indépendamment du métier, oui, sans se connaître. D'ailleurs, il y a 2500 ans, c'est ce que les sages de la Grèce antique avaient inscrit au fronton du temple d'Apollon, comme vous le savez, le fameux connais-toi-toi-même qui a été repris par Socrate. C'est la clé de tout, en fait, de se connaître. Et bizarrement, c'est peut-être la seule chose qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école. Enfin, c'est étonnant, on apprend d'autres choses intéressantes, mais se connaître, on apprend vraiment, pourtant c'est vraiment essentiel.
Et quelle est la voie, justement? Quelle est la voie en santé pour se connaître?
Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Il y a déjà ce qu'on peut faire tout simplement tout seul, sans aller vers le mental et la recherche d'informations, ce qui était mon réflexe à moi. Le simple fait, vous voyez, d'éteindre un peu toutes les machines que j'évoquais tout à l'heure, les réseaux sociaux, etc., pour passer un petit peu de temps avec soi-même, si on veut être un peu plus proactif, la méditation. La méditation est un excellent moyen assez simple, finalement, de se reconnecter à soi-même, et d'être à l'écoute de ce qui se passe en nous et des idées qui émergent. Ça peut être aussi la marche dans la nature, qui est pour moi aussi quelque chose de l'ordre de la méditation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la nature, on est rarement à faire des plans sur la comète, on pense rarement à la prochaine paire de chaussures, ou une promotion, ou... Vous voyez, on est dans l'instant, on se connecte, sans doute, c'est sans doute pas un hasard d'ailleurs, je crois qu'on revient à notre place quelque part, bien, nous sommes un élément de la biosphère, je vous disais tout à l'heure, on est tous connectés, mais pas que les êtres humains, même si nous autres humains, on a tendance à se mettre au-dessus de tous les êtres vivants de la biosphère, en fait on est un élément parmi d'autres, c'est ce que les Amérindiens appellent le grand tout, et on se retourne dans la nature, nature, mais finalement on se reconnecte à la source quelque part, on se reconnecte à, ce à quoi on appartient naturellement. Et donc c'est une façon aussi de se connecter à soi-même. Vous voyez. Sinon, pour se connaître, après il y a aussi la recherche d'informations, comme moi j'ai pu faire en lisant autre chose, en se formant, pourquoi pas, etc. Il y a aussi des démarches thérapeutiques. Il y a plein de façons de se connaître. Donc c'est vraiment à chacun de trouver la sienne.
Oui, c'est ça, que si on arrive à se connaître et on prend conscience que peut-être la voie qu'on a empruntée n'est pas la bonne, ça peut aboutir aussi à une crise existentielle assez importante. Parce que vous l'avez vécu, mais si on se rend compte qu'on est dans une impasse et qu'on ne peut plus aller plus loin, il faut repartir vers ailleurs. Et ça peut être extrêmement positif, mais ça peut être aussi dramatique.
Oui, mais les impasses, vous savez, parfois, leur fonction, je pense que, et c'est vrai d'ailleurs aussi bien à un niveau sociétal, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, qu'à un niveau personnel, les crises accompagnent les transformations, vous voyez, les crises permettent la transition, donc la souffrance n'est pas non plus forcément à éviter à tout prix, vous voyez. Je cite souvent un exemple l'adolescence. L'adolescence, c'est une crise, c'est une turbulence, c'est pas agréable, ni pour les enfants, ni pour les parents, mais ça permet de passer de l'enfance à l'âge adulte. Personne ne passe comme ça de l'enfance à l'âge adulte, c'est nécessaire. Il y a toujours des émotions qui accompagnent les transitions. Quand on vit une crise, qu'elle soit au niveau professionnel ou personnel, c'est qu'on est en train de changer, tout simplement. Et la transition est toujours difficile, parce qu'on perd quelque chose, on lâche quelque chose. Et l'adolescent, il lâche son enfance, et c'est pas évident, vous voyez. Quand on change de métier, on lâche dans un ancien métier. Si vous divorcez, bah, vous lâchez votre ancien conjoint. Bah, tout ça, c'est dur, quoi. C'est pas évident, quoi. Et c'est ce qui permet, à un moment donné, aussi de recommencer autre chose, c'est la renaissance.
Et pour vous, retour vers soi-même n'est pas contradictoire avec l'ouverture aux autres.
Au contraire. Là aussi, il y a souvent une illusion qui est de croire que se tourner vers soi-même, être à l'écoute de soi, c'est des marches égoïstes, se couper des autres. Il y a ce fond de culpabilité judéo-chrétienne où on devrait se tourner uniquement sur les autres. Mais je considère que le véritable amour, c'est-à-dire sincère et totalement désintéressé pour l'autre, pour les autres, apparaît quand on a appris à s'aimer soi-même. C'est-à-dire, si on ne s'aime pas soi-même, eh bien, finalement, l'amour est biaisé d'une façon ou d'une autre. D'une autre, d'ailleurs, puisque je parle de racines judéo-chrétiennes, Jésus lui-même le disait. Il disait « aime ton prochain comme toi-même ». Il n'a jamais dit « aime plus ton prochain que toi-même ». « Aime ton prochain comme toi-même ». Et je pense que, enfin, je suis même convaincu, qu'on a tous à gagner à apprendre à nous aimer nous-mêmes, quelque part à développer un ego sain, vous voyez, pour passer à autre chose, et ça se fait naturellement. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai jamais vu de personnes qui avaient appris à développer l'estime de soi, si elles en manquaient avant, qui avaient appris à s'aimer, qui passaient ensuite leur vie à se regarder de nombril. Mon expérience est exactement à l'opposé. Et les personnes qui sont très nombrilistes sont au contraire des gens qui souffrent d'une grande blessure narcissique, vous voyez, qui remonte souvent à l'enfance, soit des parents, soit, je sais pas, un échec vécu assez jeune, quelque chose qui fait que voilà, la personne n'a pas appris vraiment à s'aimer, ou elle croit qu'elle a quelque chose en elle qui coince. Souvent, on ne s'en rend pas compte, hein, parce que ça peut être contrebalancé par un comportement qui peut être très joyeux, très positif, voire séducteur, etc., voire même imbu d'elle-même. Vous avez des gens qui sont très imbus d'eux-mêmes, assez imbuvables, mais qui ne s'aiment pas eux-mêmes, vous voyez. Et donc, finalement, c'est quand il y a une blessure narcissique comme ça que l'ego prend le pas, et qu'ensuite la personne peut passer sa vie entière à essayer de se prouver à elle-même et aux autres qu'elle a de la valeur. Mais ça, c'est une bonne façon de passer à côté de sa vie, parce que ça ne rend pas heureux. Et donc, c'est en corrigeant la blessure narcissique si elle existe, donc finalement, en apprenant à s'aimer, hein, tout simplement, à découvrir qu'on est une personne bien, même si on ne fait rien, même si on n'a pas de résultat, même si on est en échec, comme je l'ai vécu, néanmoins, on est quelqu'un de bien, on a de la valeur, une valeur intrinsèque, totalement indépendante de ce qu'on fait, de nos résultats, de notre compte en banque, de nos possessions, de quoi que ce soit, on a une valeur intrinsèque. Et c'est vraiment quand on a appris à s'aimer, qu'à ce moment-là, spontanément, et c'est naturel et c'est automatique chez 100% des gens, à ce moment-là, on se tourne vers les autres, on s'intéresse beaucoup moins à sa personne, parce qu'on s'est dépassé quelque part. Et là, l'amour est sincère, véritable, désintéressé, il n'est pas biaisé.
Et vous citiez justement tout à l'heure le Christ, est-ce qu'il y a des spiritualités qui vous ont inspiré, telles que le bouddhisme, le taoïsme, justement dans votre cheminement? Je pense que pose aussi la question, puisque votre précédent livre quand même abordé aussi cette question.
Oui, et bizarrement, d'ailleurs, j'ai plutôt commencé par la spiritualité orientale, donc j'ai commencé à m'intéresser au taoïsme, au bouddhisme, l'hindouisme, avant le christianisme, sans doute par effet de mode, hein, tout bêtement, parce que les gens sont toujours plus attirés par ce qui est étranger, c'est plus exotique, n'est-ce pas? Mais oui, j'ai lu la Bible, les évangiles après, parce que je n'avais pas eu l'éducation religieuse, même si mes deux parents sont chrétiens, l'un protestant, l'autre catholique. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que quand j'ai lu la Bible, en fait, j'ai lu avec un regard qui était déjà influencé par certaines pensées taoïstes et bouddhistes, notamment, ce qui m'a donné une lecture différente, ce qui a donné lieu à l'écriture de mon précédent livre, vous l'avez évoqué. Et que vous dire, moi, ce qui m'a le plus touché, en tout cas, dans la Bible, vous voyez, c'est, en tout cas dans les évangiles, c'est le message d'amour. Quoi. C'est l'une des seules religions qui invite explicitement à l'amour, ce qui est quand même le plus beau des sentiments. Donc, oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché.
Justement, on vous demandait quelle était votre qualité préférée, vous avez répondu la bonté. Un article, il y a une dizaine d'années, je crois, ou un peu moins, vous avez baptisé le bienveillant. Je crois que vous vous définissez vous-même comme optimiste. Alors vous devez vous sentir un petit peu en décalage, peut-être, par rapport à la période actuelle.
Non, parce que je pense une fois plus qu'on est en train de vivre une transition. Donc la période actuelle est difficile, hein. Mais elle est source de souffrance pour beaucoup de gens. C'est ça qui m'inquiète et c'est ça qui m'attriste. Par contre, je suis convaincu que ça va déboucher sur quelque chose de positif. Mais je pense qu'on se... Enfin, c'était prétentieux de ma part, mais je pense qu'on se méprend un petit peu sur les manifestations depuis quelques semaines des Gilets jaunes. Et je pense que peut-être que eux-mêmes ne réalisent pas vraiment ce contre quoi ils se soulèvent. Et en fait, je pense que ça n'a rien à voir avec Macron, par exemple, même s'il cristallise la contestation, même la détestation, on pourrait dire, en ce moment. Je pense qu'en fait, le mouvement n'a absolument rien à voir avec lui. Il a pris deux micro-décisions, hein, la hausse de la CSG et la taxe sur le diesel, qui sont des décisions qui peuvent poser problème à certaines personnes, hein, comme le budget SRE, je ne remets pas ça en question du tout. Hein. Mais pour moi, ce sont juste deux petites gouttes qui sont tombées dans un vase qui était déjà mais archi-plein. Quoi. Donc voilà, le vase a débordé, mais quelque part, il n'y a plus rien. Hein. Peut-être que ça aurait été un autre. Je dis ça, je ne prends pas à défense. Hein. Je n'ai même pas voté pour lui au premier tour. Donc, je suis libre quand même dans ce domaine-là aussi. Hein. Mais non, je pense qu'en fait, c'est pas un débat, mais pourquoi on peut l'aborder. Je pense que la crise aujourd'hui est une crise de la dette. En fait, on n'en parle pas. Quoi, mais le gros problème de la France aujourd'hui, c'est la dette. C'est la dette, parce que ça fait 40 ans que la France vit à crédit, non pas pour financer les investissements, ce qui est sain aussi dans un ménage quand on s'endette pour acheter notre maison, que dans une entreprise quand on s'endette pour investir dans les machines de production, ou un État peut aussi s'endetter pour des investissements. Sauf que non, l'État, depuis 40 ans, s'endette pour son train de vie, enfin pour faire tourner la baraque. Mais ça, c'est aussi catastrophique que si vous ou moi, on s'endettait pour payer notre nourriture. Vous rendez bien compte que ça va pas demander loin, ça ne peut pas continuer. Quoi. Il y a un gros problème. Et en fait, cette dette est telle qu'aujourd'hui, le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts que nous, Français, hein, la France paye chaque année au marché financier, c'est 41 milliards d'euros. Vous vous rendez compte? C'est presque 300 milliards de francs. Excusez-moi, j'ai plus de 50 ans, je suis encore à l'information. 41 milliards d'euros, quoi. C'est la deuxième poste de dépense de l'État. Donc en fait, si aujourd'hui on paye autant d'impôts et qu'en même temps on a laissé les services publics, on a le sentiment qu'ils sont de moindre qualité, ouais, ils viennent de là, ils viennent pas d'ailleurs. Il n'y a pas de telle ou telle décision politique. Et c'est pas parce qu'on va changer de gouvernement que ça changera quoi que ce soit. Le problème, il est là, il vient de la dette. D'accord ? Donc, moi, je pense que ça, c'est le problème essentiel. Là, c'est la mauvaise nouvelle, parce qu'on va pas s'en libérer comme ça. La bonne nouvelle, c'est que ça va sans doute permettre quelque chose, c'est-à-dire ce ras-le-bol qui se manifeste par le mouvement des gilets jaunes, et puis montre qu'on arrive au bout d'un système, on ne peut pas continuer comme ça tout simplement, donc je pense que c'est quelque chose qui est en train de s'effondrer. Alors c'est pas drôle parce que ça génère la souffrance, une fois de plus, par contre ça va déboucher sur autre chose. Et ma conviction, enfin, mon sentiment en tout cas, c'est que cette autre chose, ce sera un système complètement différent, on va changer de paradigme, mais ça ne viendra pas des gouvernements. On peut toujours continuer d'aller voter, hein, mais ça, enfin, je ne crois pas en un homme ou une femme providentielle mais qui va débarquer à l'Élysée ou à Matignon et qui va tout réformer. Non. C'est totalement impossible parce que nos élus sont là pour quelques années. Oui. C'est 5 ans, après il y a la réélection, et donc s'ils ne sont pas totalement altruistes, et ils le sont rarement en général, bah, ils n'ont pas envie de faire péter le système parce que ça va être compliqué, oui, changer de paradigme. C'est forcément, ça génère des réactions en cascade qui vont être problématiques pendant quelques années avant de déboucher sur quelque chose de positif. Donc, il faut bien qu'aucun homme politique, quel que soit son bord, ne peut mettre ça en œuvre. Ils ne peuvent que gérer l'existant dans des petites rustines qui varient un petit peu selon qu'ils sont de gauche ou de droite ou des deux, mais ils ne peuvent pas changer le système. En revanche, c'est pour ça que je suis un optimiste, Michel, je pense que le système est en train de changer par lui-même, et le système, c'est nous qui le faisons changer, parce que la société, c'est nous, parce que l'humanité, c'est chacun d'entre nous, et la France, c'est nous. Et finalement, c'est par nos décisions, par nos actes quotidiens, par nos paroles aussi, et puis par nos décisions, par nos choix de consommation, par nos choix de voyage, que finalement, on fait le pays, on fait même l'économie du pays. L'économie du pays, c'est quoi? C'est nos dépenses. Si on fait évoluer, si on modifie nos dépenses, la structure de nos dépenses, ben, on modifie l'économie. On n'a pas besoin d'un ministre pour prendre des décisions, vous voyez. Et je pense que, moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a un éveil des consciences. Hein, on est de plus en plus nombreux à avoir une conscience écologique, par exemple. On est de plus en plus nombreux à avoir conscience des autres, des conséquences sur les autres de certaines de nos paroles, ou de certains de nos actes. Et de plus en plus, finalement, on s'auto-responsabilise, on prend des décisions dans nos vies par rapport à un choix de vacances. Est-ce bien raisonnable d'aller passer des vacances à Mise-Maurice, même si on en a vachement oublié, alors que la Bretagne, c'est très beau. Je suis en Bretagne depuis un an. J'en fais la promotion. Vous voyez, et finalement, pareil pour toutes nos décisions, de trier des déchets, d'avoir un composteur, etc. etc. Enfin, et je vois autrement plein de gens qui ont des initiatives individuelles, ils n'en parlent pas forcément. Et je pense que le monde est en train de changer, mine de rien. Ça ne fait pas la lutte des médias qui s'intéressent beaucoup plus aux petites catastrophes qui arrivent un peu partout. Ils arrivent même maintenant, c'est quand même assez extraordinaire, de trouver le fait divers qui survient en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Enfin, j'ai vu ça il y a 15 jours, j'étais quand même scotché, mais ils n'en ont pas trouvé assez en France, ils vont nous en chercher un peu partout. Enfin, la météo des tempêtes sur Mars, ou ouais, on en parle pas, mais il y a plein d'initiatives tout à fait belles qui se passent en France, et je pense qu'on est en train petit à petit de changer.
Vous dites que la révolution viendra de micro-changements individuels. L'addition de petits changements peut provoquer quand même. Donc ce ne sont pas seulement des choses isolées, je veux dire, indépendantes des uns des autres, les unes des autres, pour vous ça peut créer un mouvement.
Oui, parce que nous sommes tous reliés, notamment par les réseaux sociaux maintenant. C'est vrai que c'est très facile pour une personne avec une idée de mettre sur sa page, la cité de marque, mais hein, sur son réseau social, et puis tout de suite elle va avoir 50, 100, 300 amis qui eux-mêmes vont en parler, donc ça va très vite. Les idées se répandent vite maintenant. Et donc, quand on essaye un truc qui nous semble sympa, bien pour la planète, bien pour les autres, qu'on en parle, bah, d'autres personnes reprennent l'idée, et ça se propage très très vite.
Et comme romancier, avec vos livres, vous vous sentez utile? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous écrivez d'abord pour les gens, pour l'échanger, ou en tout cas leur faire prendre conscience de certaines choses. Est-ce que vous pensez que vous avez une certaine utilité?
Bah, j'espère, en tout cas, parce que c'est ce qui m'anime, moi je prends la plume. J'espère.
Et vous le voyez aussi concrètement dans, justement, dans les rapports.
Je ne peux pas mesurer les résultats, mais en tout cas, je discute avec les lecteurs, comme tout à l'heure pendant la dédicace, par exemple. Donc, oui, j'ai un temps d'autres.
Donc, ce sentiment peut mobiliser, en tout cas, animer un romancier, le fait d'avoir une certaine importance, peut-être, dans des comportements ou dans des réflexions futures de ses lecteurs.
Et aussi, je pense que chacun, en fait, peut apporter quelque chose à tout le monde. Et vraiment, et parfois sans le savoir. Un exemple de traverse d'esprit, il y a quelqu'un qui a changé ma vie sans le savoir. J'ai même pas eu l'occasion de lui dire merci, parce que je l'ai analysé sur le moment. C'était mon prof de planche à voile quand j'avais, je sais pas, 14 ou 15 ans. C'est le seul sport où j'étais à peu près bon. Et sauf qu'un jour, mon prof de planche à voile, mon moniteur, m'a dit « Je t'ai observé, Laurent, je peux te dire que maintenant tu vas plus progresser. » Le fait que c'est comme un coup, je lui dis, qu'est-ce qui permet de me dire ça, enfin? Et il me dit, non, mais j'ai bien observé, je me suis rendu compte que tu t'arrangeais pour pas tomber, en fait. C'est vrai, en Bretagne, l'eau est à 17 degrés. Hein. Donc c'était vrai, quoi. Il m'a dit, bah donc, si tu t'empêches de tomber, tu connais pas tes limites. Et donc, tu vas plus progresser. Je peux vous dire, ça m'a fait gamberger. Pendant des années, 40 ans après, je m'en souviens encore, vous voyez. Et ça a dû beaucoup de choses dans ma vie, notamment dans ma relation à l'échec et l'acceptation de l'échec, vous voyez. Donc voilà, je pense que chacun d'entre nous, au quotidien, on doit prononcer une phrase qui peut à nous-mêmes nous sembler anodine, qui va peut-être changer la vie de la personne en face de nous. Vous voyez. Donc tout le monde peut contribuer, j'en suis intimement convaincu.
Et vous pensez qu'on donne, les médias, l'autre donne une image peut-être biaisée de l'être humain, de l'humanité, parce que je pense à votre premier livre où il y a un des personnages qui veut faire dire non aux gens et finalement il n'arrive pas à trouver des gens qui lui disent non. Et il dit au fond, les gens sont prêts à aider, sont toujours prêts à vous comprendre, à essayer de trouver un moyen de résoudre vos problèmes. Plutôt que... Alors qu'on a parfois l'impression justement qu'il y a une espèce d'individualisme, de rejet de l'autre, et finalement, pas tant que ça.
Oui, tout à fait, l'individualisme est notamment le fruit d'une certaine peur qui elle-même est issue d'une vision du monde qui est largement propagée par les médias. C'est-à-dire quand on dit tout ce qui va mal dans le monde, quand on nous parle de tous ces faits divers sordides, qui existent certes, mais qui sont, à mon avis, epsilon par rapport à tous les beaux actes qui ont lieu au quotidien sur cette planète et dans ce pays, évidemment, petit à petit, on arrive à tous croire que le monde est dangereux et qu'il faut se méfier des autres. C'est pas la réalité. L'immense majorité des gens sont dignes de confiance, sont bienveillants et veulent notre bien. Et c'est vrai que c'est. Mais pour le savoir, c'est là où c'est difficile. En fait. Il faut l'avoir aussi à l'esprit. Si je vais dans le monde en me disant. Bon, le monde est dangereux, mais je vais quand même essayer de voir s'ils sont vraiment dangereux ou pas. Je vais être dans une attitude de méfiance qui va pousser les autres à se fermer. Et du coup, je vais arriver à la conclusion que maintenant, ils sont tous un peu louches. Quoi. Tandis que si j'arrive à trouver en moi déjà la confiance en moi et confiance dans les autres, je vais vers les autres dans un état de confiance en eux et confiance dans la vie, et bien tout de suite, les gens s'ouvrent. C'est magique. Les gens s'ouvrent et les gens sont même plus positifs et montrent leur bon côté. Montre spontanément leur bon côté.
Et vous-même, vous avez expérimenté ça avec vos livres, en quelque sorte.
Mais oui, puis je l'expérimente tous les jours. Mm-hmm. Oui, c'est un peu comme cette notion de masque. Tout à l'heure, je vous confiais mes peurs. Je suis sûr que le fait de vous confier mes peurs peut vous inciter vous-même ensuite à confier vos propres problèmes. Vous voyez, et à un moment donné, on réalise qu'on nous aime quand même, malgré nos problèmes. Quoi. Mais on ne le sait pas, parce qu'on ne nous l'a jamais dit. On ne l'a jamais dit à l'école, notamment. Vous voyez, moi, pendant des années, je cachais mes peurs. Puis, à partir du moment où j'ai accepté le fait d'en parler, ben, j'ai réalisé que je perdais bien mes amis. Vous voyez, voilà, c'est OK. Quoi. On peut avoir peur et être aimé, on peut être en colère et être aimé, on peut être etc. etc. Vous voyez. Et puis même, on peut être sous son image et puis le dire, bah, moi j'ai un problème, c'est que voilà, je suis sous mon image, mais c'est super important pour moi d'être bien sapé ou d'avoir, je sais pas, une jolie voiture rouge. Et c'est OK, il n'y a pas de mal à ça.
Oui. Très bien, merci. On va voir maintenant s'il y a des questions dans la salle. Normalement, il y a un ou deux micros.
Oui, je crois qu'on peut faire passer des micros.
Mais normalement,
vous pouvez poser toutes les questions.
Vous pouvez lever le micro. Et je suppose que quelqu'un vous apportera un micro. Voilà.
L'idée de départ, je vous préviens, elle est assez dérangeante. Mon idée est de dire, pour pour être heureux dans la vie, il faut se libérer de sa personnalité. Alors pourquoi elle est dérangeante? Parce que nombreux d'entre nous peuvent s'identifier à leur personnalité. C'est-à-dire que vous pouvez croire que vous êtes votre personnalité. Alors que la personnalité, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est plutôt quelque chose, là, c'est un élément qui vient de notre psyché, qui nous fournit ces fameux filtres à travers lesquels on voit le monde, qui nous permettent de, de nous adapter, donc de trouver un équilibre dans la vie, mais en même temps, biaise la réalité et aussi apporte leur lot de souffrance. Donc pour moi, la liberté, au sens que je l'entends dans ce roman, la liberté, c'est se libérer de sa personnalité. Voyez, c'est le fait de comprendre comment elle fonctionne, donc quelle est la structure de notre psyché, comment fonctionne notre personnalité et comment on peut s'en libérer pour être pleinement soi-même. Pour illustrer mes propos et tenter de vous démontrer que nous ne sommes pas notre personnalité, si il y a je sais pas, 20 ans, vous aviez dit Laurent Gounel est un homme peureux, ben à la fois vous auriez dit la vérité, oui, il y avait du vrai dedans, et en même temps, vous n'auriez rien dit de moi. Parce que mes peurs, comme je vous l'ai raconté, mes peurs étaient ce qui m'empêchait d'être moi-même. Elles étaient même ce qui m'empêchait d'écouter mon cœur et mes aspirations profondes. J'étais attiré par l'humain, je me serais interdit d'avoir un métier en relation avec l'humain parce que j'avais peur des gens. Donc elles m'empêchaient d'écouter mon cœur, mon cœur, et elles m'empêchaient d'exprimer qui je suis véritablement. Donc notre personnalité nous éloigne de qui on est, et pour être vraiment soi-même, avant ce même, je pense qu'il faut comprendre notre personnalité pour pouvoir s'en libérer, ce qui signifie, hein, pour prendre la métaphore de tout à l'heure, visiter l'autre face de la pièce. Donc, c'est un travail, mais c'est tout à fait atteignable.
Est-ce que vous nous donnez des techniques? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'en avoir conscience, il y a bien longtemps que j'ai fait, je crois, pour pas mal de temps.
Alors la première chose, alors on découvre au fil du roman, mais à travers l'histoire, hein, comme Michel l'a rappelé tout à l'heure, j'écris des romans pour porter ces messages, mais on découvre à travers ce roman, en fait, j'invite le lecteur à travers ce roman à découvrir sa personnalité, sachant que je me suis appuyé sur un modèle de personnalité, une typologie de personnalité qui s'appelle l'énéagramme. Alors vous avez tous entendu parler de modèle de typologie de personnalité. Moi, en général, je n'aime pas trop, autant vous dire, je suis même franchement réticent, notamment pour bien tous ceux qui sont utilisés dans le monde de l'entreprise et même souvent en recrutement. Pourquoi je ne les aime pas? Parce que ce sont des modèles de typologie de comportement qui vont classer les gens en fonction de la façon dont ils se comportent. Donc pour moi, ça met les gens dans les cases et c'est très enfermant. Et même l'idée, c'est que pas des rétros, ça t'annonce. D'accord, j'aime pas ça. L'énéagramme, c'est quoi? C'est pas un modèle de typologie de comportement, c'est un modèle d'intention. Et c'est là qu'on voit que c'est pas du tout enfermant, au contraire. C'est un modèle dynamique qui amène vers l'évolution. C'est-à-dire, en fait, l'énéagramme est un modèle qui s'intéresse à l'intention à l'origine des comportements. Vous voyez, par exemple, quand on a au cœur de sa personnalité la peur, comme moi, ça c'est l'intention, et de se mettre à l'abri. Moi, toute ma vie, je cherche à me mettre en sécurité. Ça peut donner lieu à différents types de comportements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. D'accord ? Donc moi, j'avais une attitude plutôt phobique, je vous l'ai décrite tout à l'heure. Moi, je me mettais à l'abri de tous ces risques réels ou imaginaires. D'accord ? Ça, c'est une stratégie possible. Il y a d'autres gens qui font presque l'inverse. Moi, j'avais un ami, par exemple, qui avait le même type de personnalité que moi, qui, lui, était presque contre-phobique. C'est-à-dire, en fait, il allait au-devant de tout ce qui lui faisait peur. Il était très affirmé, limite un peu agressif sur le plan de la communication, avec sans doute une croyance du genre... qui s'y frotte typique, ouais, je vais montrer ma force et ça coupera aux autres envie de m'agresser. Là où moi j'avais une croyance qui est si je suis tout gentil, tout doux, on va pas me taper dessus. Donc deux comportements opposés pour répondre à la même intention. D'accord ? Et donc l'énéagramme propose 9 types de personnalités qui correspondent finalement à 9 façons de structurer le chaos. Je vous parlais tout à l'heure, je vous disais l'enfant est propulsé dans le monde qui est une sorte de vaste chaos. C'est difficile de s'adapter au monde quand on est jeune. Donc. Mais il n'y a pas 50 000 façons de structurer le chaos. D'accord, il n'y a pas 50 000 manières de s'adapter. Quoi. Donc l'énéagramme est un modèle qui en propose 9, qui en décrit 9. Et donc, en découvrant ce modèle, et donc je les vois au fur et à mesure de l'histoire, eh bien, on peut découvrir quel type de personnalité est le plus proche de notre, finalement, à savoir quelle est l'intention qui est probablement au cœur de notre psyché et au cœur, à l'origine de nos comportements. D'accord ? C'est pas enfermant, pourquoi est-ce que ça propose une évolution, en l'occurrence, de se libérer de ce qui nous pose problème. Et pour la petite histoire, c'est un modèle, je ne vais pas tout vous raconter, parce que il y a des choses à découvrir à ce sujet dans le roman, mais c'est un modèle qui est mystérieux, c'est-à-dire on n'en connaît pas l'origine. Il n'y a pas un monsieur ou madame énéagramme. C'est le plus ancien des modèles de personnalité. On en a trouvé des traces chez Pythagore, par exemple. J'en ai trouvé des traces chez Évagre. Et je vous en dirai pas plus. Voilà.
Merci. Ah oui, c'est complètement romancé.
Merci.
Voilà. C'est un vrai roman comme je l'ai trouvé. Ce n'est pas une thèse sur le livre. Donc, alors, s'il y a d'autres questions, madame, est-ce qu'il n'y a toujours pas de micro?
Je n'ai pas spécialement de questions. Vous parliez de quelqu'un qui a changé votre vie et de l'impossibilité aujourd'hui de le dire. Moi, aujourd'hui, je viens vous dire à vous, Laurent Binet, que vous avez changé ma vie il y a 10 ans avec l'homme qui voulait être heureux. Je suis tombée il y a 10 ans sur l'homme qui voulait être heureux et grâce à vous, je suis tombée dans le développement personnel. Aujourd'hui, je deviens coach. Là, je sors d'un module de 3 jours de PNL. Je suis encore complètement tête cœur corps, là beaucoup plus le cœur. Et je suis ravie parce que avec Jacques Salomé, vous êtes les personnes vraiment mes modèles. L'homme qui voulait être heureux et les dieux voyagent sur incognito sont mes bibles. Mes bibles. Il y a des post-it. Je l'ai offert en 15, 17, 18 exemplaires et vraiment, et je l'offre. C'est vraiment quelque chose. Merci à vous. Merci à vous.
Merci pour ce témoignage. Une autre question? Oui, allez-y.
Bonjour, Thierry.
Bonjour.
Je m'appelle Claire, j'ai 26 ans. J'ai le cœur qui va très vite, genre, c'est plus la colère qui m'a
fait. C'est ok.
Je voulais savoir ce que vous pensiez. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la crise des millénials.
Des
millénials. Donc, ceux qui sont nés, ils ont entre 20 et 30 ans. Ils sont en pleine crise existentielle et souvent ils commencent à travailler. Ils en peuvent déjà plus vraiment. Je voulais savoir si vous aviez un message ou des éclairages. Je crois que vous avez un enfant, enfin ma mère à votre âge en fait. Je voulais savoir, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui sont un peu paumés, enfin ils ne sont pas tous dépressifs. Mais est-ce que vous avez un message à leur transmettre dans ce monde un peu. On peut tout faire, mais on ne sait plus trop quoi faire. Voilà, on lance un truc un peu dans le vide, là, mais c'est lancé.
Alors, j'ai une bonne question. Merci pour votre question. Elle est assez symptomatique, en fait. Qu'est-ce que vous avez dit à la fin de votre phrase? Vous avez dit un conseil pour les jeunes dans ce monde, etc. Et en fait, je pense que peut-être que le principal problème des jeunes est cette vision du monde. Parce qu'une fois de plus, on nous rebat les oreilles. Avec une vision négative du monde, avec tous ces problèmes, avec le fait avec l'espèce de croyance qu'il n'y a pas d'avenir, c'est abominable quand on prend un peu de recul, c'est une vision pessimiste, mais ce serait à vous regretter d'avoir mis les enfants au monde. Oui.
C'était mieux avant.
Oui, mais c'était mieux avant, mais en plus c'est des bêtises, c'est pas possible. Mais même sur le plan de la sécurité, parce qu'on a assez souvent le sentiment que c'est dans ce domaine que tout va vraiment de mal en pire, il y a beaucoup moins de morts violentes aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Ça a été démontré. Il y a moins de morts violentes aujourd'hui qu'il y a 100 ans. L'évolution de l'humanité, c'est une évolution vers de plus en plus de paix. Je vais avoir le sens pour vous, le coup. Vers de plus en plus de paix, c'est ça la vérité. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Je ne suis pas un bisounours, d'accord. Il y a plein de choses qui vont mal. Il y a du terrorisme, il y a de la violence, il y a de la souffrance, on l'a évoqué. Mais globalement, on va dans le bon sens. Moi, mes préoccupations sont plutôt sur le plan écologique. Parce qu'il y a urgence, donc je sais qu'il y a un éveil des consciences, je l'ai évoqué tout à l'heure, et il faut qu'il soit suffisamment rapide maintenant pour qu'il soit encore temps de sauver un certain nombre de choses essentielles. D'accord ? Donc là, j'ai des préoccupations, des peurs, je lâche le terme. Mais en même temps, là aussi, vous voyez, c'est pas en étant dans la peur qu'on attend des solutions. C'est plutôt en ayant confiance et en parlant. Vous voyez, je pense vraiment c'est en ayant foi dans notre capacité à nous tous à éveiller notre conscience et à justement avoir ce sursaut pour repartir dans une bonne direction et donc sauver, c'est pas sauver la planète, hein, c'est sauver les conditions de vie sur Terre, parce que la planète nous survivra, la planète était la bienne avant l'homme sur Terre, j'ai aucun souci pour la planète. Ce qui est en question, c'est les conditions de la vie sur Terre, et ça c'est pas gagné. Mais c'est vraiment parce qu'on aura confiance en nous par rapport à ça, et qu'on portera aussi la bonne parole, j'ai envie de dire, qu'on changera les choses. Par rapport à votre question pour les jeunes, moi j'ai envie de, ce qui me vient à l'esprit, c'est ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Et a priori, vous devriez quand même être plus équipé que les gens de ma génération, parce que les gens de notre génération, on était quand même élevés, en général, pas tous, mais avec une éducation assez stricte, où nos parents avaient tendance en général à mettre en avant plutôt nos défauts, nos imperfections, que ce qu'il y avait de bien en nous. Donc nous, on a plutôt, je généralise, hein, mais on a plutôt un problème d'estime de soi, vous voyez. Ce qui est moins le cas des jeunes, les jeunes que je côtoie, que je rencontre régulièrement, encore. La semaine prochaine, je vais rencontrer les jeunes dans un collège. Ils ont plutôt une bonne estime d'eux-mêmes, vous voyez. Sachant que ce n'est pas tout dans la vie, hein, parce que notamment dans l'éducation, tout type d'éducation génère en même temps des effets positifs et négatifs, mais en même temps, vous voyez. Donc il n'y a pas que du négatif non plus à une éducation où on dit à nos enfants, vous êtes formidables, etc. C'est pas toujours qu'un cadeau de leur dire ça. Quand même, c'est important qu'ils développent leur estime de soi. Donc en tout cas, moi je dirais aux jeunes de votre génération, ayez confiance en vous, mais surtout, ayez confiance dans la vie. Ayez confiance dans la vie, ayez confiance dans les autres, et écoutez votre cœur, n'écoutez pas les médias, quoi. À la limite, arrêtez, quoi. Coupez la télé, moi ça va faire dans... On est en 2019, hein. Mais dans au mois de mai prochain, ça fera 30 ans que je vis sans télé. Et je me porte super bien. Éteignez ça, lisez les journaux, mais lisez les titres, et puis lisez les articles de fond quand ils vous intéressent, mais voyez, méfiez-vous comme de la peste, de toutes ces mauvaises nouvelles qui vous font croire que tout va mal, que le monde va mal, et que votre vie va être pourrie, quoi. D'accord ? Écoutez votre cœur, découvrez la mission qui est la vôtre, ce qui va te plaire. Hein, je répète souvent dans ces conférences, je l'ai peut-être déjà dit il y a 2 ans quand je suis venu à Lille, voilà, chacun de nous pour moi a une mission, d'accord ? Et on a les talents qui vont te plaire. Mais pour ça, il faut être à l'écoute de soi-même. C'est pas en regardant la télé qu'on va découvrir notre mission. Mais soyez à l'écoute de vous-même. Écoutez votre cœur, écoutez la petite voix qui vous parle, qui vous donne une direction. Je suis sûr qu'à votre âge, vous avez des envies pour votre vie. Alors vous avez peut-être ensuite tout un entourage qui vous dit « Allez, ma fille, pour que tu ne sois pas au chômage, tu as une telle direction, que tu fasses de l'informatique, parce qu'on recrute des informaticiens. »
Je suis en informatique.
Peut-être que vous allez vous épanouir dans l'informatique, je ne vous connais pas.
Je
suis
bien
tout, je suis bien. Et peut-être, voilà, votre petite voix vous soufflera autre chose, d'accord ? Non, voilà, soyez à l'écoute de votre cœur, laissez émerger vos envies véritables, et pas uniquement ce que vous ont dit vos parents, votre entourage, vos profs. Écoutez surtout pas les médias, dites-vous qu'on vit dans une époque formidable, parce qu'il y a des opportunités fantastiques. Et que je pense que, vous savez, il y a un proverbe qui dit la chance sourit aux audacieux. J'ai envie de le paraphraser un peu. Je dirais que la chance sourit à ceux qui y croient. Et la vie est belle pour ceux qui la voient ainsi.
Merci beaucoup.
Alors, une question. Pas tout en haut. Là, pas tout en haut. Oui, ici.
Bonjour, Marjorie. Alors, déjà, j'avais juste envie de répondre à la jeune femme. Moi, je trouve que la génération qui arrive, la génération Y et Z, nous apporte un beau cadeau, c'est qu'ils cherchent du sens dès le départ.
Tout à fait.
Et donc, merci pour ce cadeau que vous nous faites aussi à nous, adultes, entre guillemets, dans cette contribution au monde, en tout cas. C'est comme ça que je le vois. Je rejoins la première dame sur... moi, je suis venue avec pas le dernier, même si je l'ai lu, mais avec le tout premier, qui est arrivé à un beau moment dans ma vie, que quelqu'un m'a offert. Et c'est émouvant pour moi.
Pardon, j'ai pas entendu votre annonce.
C'est émouvant pour moi, en fait, parce que vous faites partie des personnes que j'appelle mes amis, avec un A accent circonflexe, pour mes âmes, merveilleusement inspirantes et signifiantes. Et il y en a des connus comme vous, mais il y a aussi plein de gens autour de moi, d'ailleurs, qui en font partie. Et j'espère que vos livres, en tout cas, amènent les gens à réapprendre à être leur propre meilleur ami. Voilà, donc je suis très émue ce soir. Et mon livre préféré de vous, c'est Les dieux voyagent toujours incognito. Et j'ai cru lire que vous alliez peut-être le réaliser en film. Est-ce que c'est vrai?
C'est amusant que vous posiez cette question, parce que dans le train pour venir aujourd'hui, je lisais justement un scénario qui a été écrit sur la base de ce livre. J'en ai eu un deuxième il y a 15 jours, donc il y a deux projets en ce moment en parallèle. Ce qui ne veut pas dire que le film se fera, parce que dans le cinéma, il y a des enjeux financiers tels que vous savez, tant que le film n'est pas dans les salles, il n'y a vraiment aucune certitude. Il y a eu un premier projet qui a commencé il y a peut-être 7-8 ans. Moi-même, j'avais pensé à un moment donné le réaliser. J'ai vite arrêté quand j'ai compris que j'y passerais 5 ans de ma vie et que ce n'était pas forcément mon métier, ma mission en tout cas. Donc voilà, peut-être. On va dire qu'il y a de bonnes chances. Des deux projets en cours, il y en a un qui est assez avancé, donc au revoir, à suivre.
Merci, Lucie.
Il y a une question là-bas, sur la gauche. Oui, je vais vous voir. Voilà,
le micro arrive.
Alors, merci. Alors déjà, pour l'anecdote, j'ai lu il y a 4 ans Les dieux voyagent toujours incognito, et j'ai réussi à dire à une fille que j'étais amoureuse d'elle. Je me suis fait un râteau, ça m'a fait énormément bien. Et sinon, ma question était, vous avez parlé des gilets jaunes, alors je ne vais pas parler de ça en particulier, mais vous considérez comme optimiste, ou vous considérez comme optimiste, et je voulais savoir, dans ce sens-là, comment vous faites pour faire la part des choses dans la vie, à quel moment il faut avoir conscience de notre responsabilité politique vis-à-vis du monde qui nous entoure, et à quel moment il faut se mettre en retrait, en effet, comme le fait d'éteindre la télévision, comme vous l'avez dit.
Il y a une phrase de, alors on ne sait pas de qui d'ailleurs, parce qu'elle a été prêtée à pas mal de saints, enfin bref, peu importe, c'est un peu sous la forme d'une prière, et ça dit quelque chose du genre bats-toi pour changer les choses que tu peux changer, accepte les choses que tu ne peux pas changer, et que Dieu t'apporte le discernement de distinguer entre les deux, quelque chose comme ça. Oui, voilà. De la sérénité. On la prête à différents auteurs, mais peu importe d'ailleurs. Par rapport à ça, moi j'ai envie de vous dire se faire du souci pour les choses qu'on ne peut pas changer, c'est la recette de la dépression. Et ensuite, il y a une décision à prendre qui est, par rapport à certaines politiques, certains sujets, qu'est-ce que je peux faire, hein, et deux, qu'est-ce que je veux faire. Parce que si on ne peut rien y faire, bah passez à autre chose. Passez à autre chose et faites confiance dans la vie. Dites-vous que les choses vont s'en résoudre. Mais si vous pouvez faire quelque chose, il y a une décision à prendre. C'est qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux m'engager politiquement en gros ? Parce que c'est pas la politique n'est pas la seule façon de faire changer les choses dans un pays, dans une société. Est-ce que je veux ou pas ? Et puis si vous le décidez, à ce moment-là, allez-y. Vous voyez, je pense que ça peut être aussi... autre chose, ça peut être épanouissant de s'engager. Mais le pire, c'est d'être un peu entre deux chaises, où on se dit, ah, finalement, voilà, il y a des choses que je n'aime pas dans cette société, j'ai envie, oui, mais je n'ose pas, ou je ne ferai pas. Et là, finalement, ça mène tout droit à une forme de déprime. Donc voilà, c'est ça pour moi. Soit je suis dans l'acceptation et j'ai confiance, soit je décide de renoncer, ou soit je choisis de m'engager.
Merci. Alors, je crois que c'est une dernière question là.
Bonsoir à tous. Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
Merci.
Ça me stresse beaucoup de parler devant autant de personnes. J'ai les mains très molles, donc je suis désolée pour la prochaine qui va prendre le micro. En fait, il y a quelques jours, je voulais désespérément t'envoyer un message, mais je ne savais pas comment le faire. Donc du coup, je vais lire ce soir. Bonjour Laurent. Je t'ai fait parvenir ce message dans l'espoir que tu puisses le lire, et cela d'ici mercredi. Tout d'abord, je me permets de te tutoyer, car voilà maintenant quelques années que tu es entré dans nos vies, que tu nous sers de guide, que tu nous fais grandir au travers de cette histoire si bien écrite. La première fois que j'ai entendu parler de toi, de ta sagesse, j'avais 12 ans, lorsque mes parents lisaient ce fameux livre vert. Depuis, tu remplis nos bibliothèques, tu nous fais rêver, rire. Tu as accompagné ma mère lors de son court séjour à l'hôpital. Avec ce personnage si attendrissant qu'est Jonathan. Mercredi, le 23 janvier, donc aujourd'hui, ma mère, Marie, qui est ici à ma gauche, fête ses 60 ans. Et c'est avec grande joie que je lui fais la surprise de venir à ta rencontre au théâtre. Donc en fait, ce message est pour te dire que tu es son cadeau. C'est un peu bizarre, mais tu es un cadeau.
Elle s'en va, donc elle avait pas mal de gens, mais elle fait une queue, puis elle s'est dans 7 ou 10 mètres, elle me dit « Bon, ben, au revoir, hein. Je me retrouve ce soir dans mon lit. Hein. » Donc, je me jure, ça. En tout cas, bon anniversaire, bon anniversaire.
Bon, toute dernière question, puis après, c'est la séance de dédicace. Allez-y.
Je ne chante pas, mais le cœur y est.
Qui a une question ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis très contente également de vous voir ce soir. Le premier livre que j'ai lu de vous, c'est « Comment j'ai appris à vivre ». Sur le titre, peut-être je suis un peu émue ce soir, je suis désolée. Vous êtes également, je dirais, dans le début, dans le développement personnel, donc merci pour ça énormément. Ce soir, je suis émue parce que je traverse une période un peu difficile. Bref, je vous demande ce soir si il y a une limite d'âge pour trouver un sens réel à sa vie.
Vous ne me semblez pas atteindre la limite. Alors, détendez-vous. Bon, trêve de plaisanterie, non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La limite, c'est la fin de cette vie. Peut-être qu'on en a d'autres. Enfin, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de limite. Et en fait, c'est super important de vous poser cette question. Parce que quand j'étais gamin, et c'est sans doute aussi ce qui m'a influencé pour prendre la plume à 40 ans, j'entendais toujours ma mère se plaindre de sa vie et dire tout le temps « Ah, j'aurais aimé faire ceci, cela, ça variait de jour en jour. » Parfois, elle disait « Ah, j'aurais aimé faire du piano. » Et je lui disais « Mais maman, t'as 38 ans, tu peux sans doute encore prendre des cours. » « Ah oui, mais non, tu comprends, c'est trop tard, puis ton père, machin. » Puis à Pia, j'aurais aimé retravailler, parce qu'elle avait cessé de travailler à un moment donné. Je lui disais, mais maman, tu peux retravailler. Elle était kiné, enfin, elle avait besoin de kiné, etc. Et à chaque fois, elle trouvait des objections, en fait, et moi, je ne comprenais pas ce que j'étais gamin. Et en fait, à chaque fois, elle formulait comme ça de grands regrets de son existence. Et je me disais, mais son existence n'est pas finie, parce qu'elle était jeune, elle avait 38, 40, même 50 ans, enfin, vous voyez. Et en fait, c'est devenu, à un certain âge, insupportable pour moi, mais vraiment insupportable, de voir des personnes, de voir des personnes malheureuses alors qu'elles pourraient l'être, et surtout, s'interdire de faire évoluer leur existence alors qu'il n'y a pas d'âge pour, en plus. Je connais quelqu'un qui a commencé le piano à 50 ans et qui est devenu concertiste. Il y a Paolo Conte qui a commencé la chanson à 40 ans. Il a pris pour la première fois de sa vie un cours de chant à 40 ans et il a eu la carrière que l'on sait. Il n'y a pas de limite pour s'interroger sur sa vie et pour se dire bah, finalement mon existence n'est pas hyper satisfaisante et je décide de prendre des décisions pour changer les choses et pour être plus épanoui. Et ça, c'est une décision qui va être prise à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 70 ans, à 80 ans et pourquoi pas au-delà pour qu'on ait envie. Et j'irai même, mais vraiment, peut-être même la veille de sa mort, il y a encore des bonnes décisions qu'on peut prendre. Voyez, c'est si la veille de sa mort, de votre mort, parce que vous ne l'avez jamais fait dans votre vie jusque-là, vous vous dites, je vais appeler mes amis et je vais leur dire que je les aime, si vous ne l'avez jamais fait jusque-là, parce qu'on a peut-être pris les plus belles décisions de votre vie. Et votre vie aura du sens à partir de ce jour-là. Et vous aurez une dernière journée extraordinaire. Et vous partirez avec la lumière au fond des yeux. Vous voyez. Donc, il n'y a vraiment pas d'agilité, si ça peut vous rassurer.
Très bien. En tout cas, merci beaucoup
d'être venu.
Et on remercie aussi au Forêt du Nord qui a organisé et donc rendu possible cette rencontre.
Donc on vous retrouve ici à côté de la salle pour les dédicaces. Merci
beaucoup. Avec plaisir.